Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, mais où est passée la droite ? C'est un principe qui mériterait d'être validé par la science, mais qui se vérifie de manière empirique. Le nombre de candidats à la direction d'un parti est inversement proportionnel à son poids politique. Ainsi, ils sont nombreux à envisager de succéder à Laurent Wauquiez à la tête des Républicains, ce qui témoigne au passage d'un certain optimisme, sauf à candidater pour être celui ou celle qui éteindra la lumière. Car c'est bien de la survie de LR dont il est question aujourd'hui, un peu comme ce à quoi fut confronté le PS il y a 2 ans. Une défaite électorale majeure, 8,5% aux européennes, des démissions en cascade et une sensation de vide, celui qui vous donne le vertige et la peur de tomber encore plus bas. La droite n'est pourtant pas si mal en point en France si l'on considère que les Républicains n'en ont pas le monopole. Elle occupe des postes clés dans le gouvernement d'Édouard Philippe, elle est largement majoritaire puisque la gauche est largement minoritaire et elle suscite des convoitises comme jamais, en jugé par les appels du pied que lui font d'un côté La République En Marche, de l'autre le Rassemblement National. Alors où est passée la droite ? Eh bien, c'est la discussion du soir en compagnie de 3 invités. Une des membres de notre club, Laetitia Strojbonnard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes essayiste, responsable éditorial de Phébé, la revue éditée par Le Point. Stéphane Rosès, bonsoir.
Bonsoir.
Enseignant à Sciences Po et HEC, vous présidez CAP. CAP pour Conseil, Analyse et Perspective. Et puis Ludovic Vigogne, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste politique à l'Opinion, vous avez publié cette année chez Fayard « Tout restera en famille ». Vous suivez la droite française depuis une 20aine d'années. Est-ce que quand on suit justement la droite depuis 20 ans, on s'inquiète de voir son objet de travail et d'études disparaître petit à petit ?
Non, on ne s'inquiète pas. En tout cas, on peut être un peu effaré de voir dans quel état est aujourd'hui la droite. Je crois qu'effectivement, elle traverse une crise inédite. La référence que vous faisiez au Parti Socialiste en 2017 est la bonne, c'est-à-dire il se passe exactement la même chose. C'est un parti qui n'a plus de socle électoral, dont les grandes figures comme les cadres partent. Et c'est un parti dont on peut aujourd'hui se poser clairement la question de l'avenir.
Et est-ce que vous diriez que c'est une crise existentielle ou bien oui, davantage une crise passagère, comme la droite en a connu dans les dernières années ?
La droite est en quête de chef, concrètement, puisque Laurent Wauquiez est parti, mais elle est aussi en quête de sens, puisqu'elle ne sait plus exactement quelle est sa ligne. Elle a essayé beaucoup de choses ces différentes années et qu'aujourd'hui, elle ne sait plus du tout où elle habite sur le fond.
Crise existentielle, Laetitia Strojbonnard, pour la droite, et en particulier pour les Républicains, parce qu'on va peut-être voir justement dans les discussions de ce soir que la droite ne se résume pas à LR.
C'est justement ce que j'allais vous dire. Tout dépend ce qu'on appelle la droite. Si on appelle la droite le parti de droite, donc les Républicains, hier l'UMP, avant le RPR, oui, en effet, il y a une crise existentielle qui est très forte, peut-être un petit peu moins forte que celle du Parti Socialiste, mais tout de même, il y a 2 problèmes, à mon sens. Il y a un problème de stratégie et il y a un problème d'idéologie, qui sont 2 choses liées, mais qui ne sont pas exactement les mêmes choses. Donc on pourra peut-être revenir là-dessus tout à l'heure, mais pour répondre à la deuxième partie, enfin d'une deuxième façon à votre question, la droite existe en France. Il me semble qu'elle est plutôt du côté du gouvernement aujourd'hui et du président de la République. C'est une forme de sensibilité de droite. Ça n'est pas toute la droite, mais tout de même, elle est plébiscitée par les électeurs de droite. Après, c'est une droite qui ne se revendique pas comme telle. Ça, c'est un fait intéressant aussi, de voir qu'il n'y a pas vraiment de revendication idéologique du côté de La République En Marche. Mais quand même, la droite n'est pas morte.
La France est encore à droite, mais ce ne sont pas les Républicains qui en profitent. Ça, c'est Gilles Boyer, qui est néo-député européen à La République En Marche, dans un article que vous avez publié dans L'Opinion, et Ludovic Vigogne. C'est aussi votre avis, Stéphane Rosès ?
Oui, je suis d'accord avec ce que vous dites et ce qui a été dit. Il y a d'un côté un peuple de droite qui a des valeurs communes, qui le distinguent de la gauche, et puis il y a la représentation politique de la droite, et là il y a un éclatement, ça a été dit. Il y a une partie de la droite, ce que René Raymond appelait la droite orléaniste, qui est du côté dès maintenant, le centre droit, pour faire vite, qui est chez Emmanuel Macron, autour d'Agir et des députés, bon, et on l'a vu aux dernières européennes, qui encore plus nettement a voté pour La République En Marche. Il y a des leaders de droite qui sont dorénavant autonomes depuis un certain temps, Xavier Bertrand et maintenant Valérie Pécresse, et des gens qui se reconnaissent dans leur figure indépendante et puis demeurent au sein du Parti Républicain. En tout cas, ils essayent d'éviter l'hémorragie des élus locaux que Gérard Larcher, au travers des départements, des régions, des maires de France, essaye encore de structurer. Donc la droite est politiquement éclatée, affaiblie, mais il demeure un peuple de droite. Est-ce que c'est existentiel ? Pour moi, on vit un moment bonapartiste qui momentanément met de côté le clivage gauche-droite qui faisait la gauche et la droite de gouvernement. Quand ce moment sera passé, alors le clivage gauche-droite traditionnel reviendra à moyen terme et on retrouvera des figures traditionnelles politiques de la droite.
Alors restons un instant, si vous le voulez bien, sur le cas des Républicains. Est-ce que le score réalisé par la liste menée par François-Xavier Bellamy était à ce point inattendu, Ludovic Wiegand, que cela provoque une crise derrière? Parce que c'est vrai que le contraste est saisissant par rapport, alors justement, au Parti Socialiste, qui fait un moins bon score, mais où on voit que le PS est presque soulagé de ne pas être sous la barre des 5%. Les Républicains font 8,5%, mais là, c'est une crise très importante. Ça veut dire qu'on ne s'attendait absolument pas à ça?
Clairement pas. Bien sûr que non. On l'a bien vu. Durant toute la campagne, les sondages donnaient les Républicains en progression assez constante jusqu'au début avril, et puis après en légère rétraction, mais on tournait autour de 12,5%, 13%, 14%. Et donc les Républicains pensaient vraiment faire un score aux alentours de cela. Donc ça a été une vraie surprise. Ensuite, l'histoire qui a été racontée autour de la campagne de François-Xavier Bellamy, c'était une histoire très positive, les salles étaient pleines, un jeune héros surgissait, c'était le nouvel espoir, celui qui allait relancer la droite, la réinventer. Et puis en fait, ce scénario a volé en éclats le 26 mai au soir, quand les 8,48% ont été comptabilisés.
En même temps, ça ne partait pas de n'importe où, c'est-à-dire qu'il y avait quand même eu la primaire de droite en 2016, avec la victoire assez éclatante quand même de François Fillon, dès le premier tour, 44%. Bien sûr, il est le candidat à la présidentielle. Il est censé incarner cet électorat conservateur que devait aussi représenter François-Xavier Bellamy. Donc l'hypothèse n'était pas totalement stupide.
Pas du tout. La stratégie était même plutôt habile. L'idée de mobiliser le noyau dur, c'est-à-dire les électeurs de François Fillon du premier tour, plutôt que d'aller en chercher d'autres. On sait très bien qu'aux européennes, ce qui compte, c'est de mobiliser les siens d'abord. C'était pas du tout, c'est pas du tout bête comme stratégie. Le seul problème, c'est d'avoir aussi oublié que d'avoir réduit les 20% de François Fillon à ce courant-là, d'imaginer que François Fillon était le conservatisme chrétien. C'est pas du tout ça. Enfin, il y avait effectivement une partie de cela, mais c'est devenu dans la fin de la campagne de François Fillon. Et puis ensuite, François Fillon, il était lesté de bien d'autres choses. Une image libérale, l'image d'un Premier ministre qui semblait avoir fait le job, l'image de la petite phrase « je suis à la tête d'un pays en faillite » qui lui restait à coller et qui était lu de manière positive par les gens. Il était vu comme un réformateur. François Fillon n'était pas seulement le candidat de sens commun. François-Xavier Bellamy, il était là davantage, et c'est sans doute aussi ce qui a réduit le socle électoral de la droite.
Le sens commun, il faut le rappeler, hein,
C'était l'émanation de la manif pour tous au sein des Républicains.
Alors nous avons à cette table une spécialiste du conservatisme, hein, en tant qu'idéologie politique, Laetitia Strauss-Bonnard. Est-ce qu'on... La droite a peut-être eu tendance, ou en tout cas ses leaders, et en l'occurrence Laurent Wauquiez, à surestimer la part de conservatisme dans son propre électorat.
Là encore, tout dépend ce que vous appelez conservatisme. Parce que le vrai conservatisme, ça n'est pas du tout seulement le conservatisme chrétien, représenté par François-Xavier Bellamy ou d'autres. En fait, la pensée conservatrice à laquelle je me réfère souvent, c'est la pensée soit américaine ou britannique. Et en fait, elle couvre tous les sujets. Elle ne parle pas du tout que des mœurs. Elle parle d'économie et justement, elle est libérale, ce qui est très difficile à comprendre pour les Français parce qu'en France, on se dit que les conservateurs sont tous anti-libéraux. Mais le vrai conservatisme, il est libéral. Il parle aussi du rapport à l'État. Ça, c'est très important pour les conservateurs, c'est-à-dire cette idée que la société et l'individu passent avant l'État. Et c'est comme ça qu'il se différencie de la gauche. Et c'est quelque chose qu'en droite...
C'est avec Fillon, il y avait quand même un beau spécimen de
mais
ça, non ?
Tout à fait. C'est ce que vous venez de dire. C'est que il y avait une tentative de faire ça avec François Fillon, qui n'était pas parfaite parce que François Fillon était un opportuniste. Il n'a jamais lui-même pensé ces choses-là. Il ressemblait à ces différentes tendances et on a vu en lui ce candidat conservateur. Je pense que c'est plutôt un peu de hasard. Mais c'est vrai qu'il rassemblait un certain nombre d'éléments de ces courants. Il avait la stature de chef d'État, il avait l'expérience. Et donc, je pense que l'erreur des Républicains, c'est de se dire « Ah oui, il a été choisi parce qu'il représentait ce conservatisme chrétien. » Et là, on a choisi François-Xavier Bellamy qui, en fait, quand vous regardez ce qu'il dit, par exemple, sur l'économie, n'est pas vraiment un homme de droite classique, parce que c'est quand même quelqu'un qui vous dit que le libéralisme économique, ça n'est pas très bien, c'est du mouvement, alors ce qu'il faut, c'est l'enracinement. Enfin, il mettait de la philosophie dans des questions qui, pour les électeurs, ne sont pas vraiment philosophiques, sont beaucoup plus concrètes. Donc là, il y a une erreur, en fait, idéologique. Mais je pense que plus avant, il y a eu une erreur stratégique, mais elle date de l'élection d'Emmanuel Macron. Ça a été de s'opposer systématiquement à Emmanuel Macron et de rester au milieu en disant on va être entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. On sait très bien que les guerres à deux fronts, on ne peut pas les gagner. Il faut choisir un front. Il aurait fallu choisir le front anti-Le Pen et se rapprocher temporairement d'Emmanuel Macron et ensuite traiter le front Macron plus tard. Ils ont fait une énorme erreur stratégique et ils l'ont payé.
Alors on va voir justement dans un instant s'il y a un espace aujourd'hui, malgré tout, qui se crée entre La République En Marche et le Rassemblement National. C'est un peu le pari, manifestement, de Valérie Pécresse, en annonçant voilà, son autonomie. Mais puisque vous faisiez référence tout à l'heure, Stéphane Rosès, à la typologie de René Raymond sur les trois droites, donc l'orléaniste, la légitimiste, la bonapartiste, est-ce que c'est justement une typologie qui est encore valable aujourd'hui pour comprendre où en est la droite ? Ou bien est-ce que c'est pas un petit peu s'enferrer dans une grille de lecture qui ne correspond plus à la situation actuelle ?
Elle est intéressante à partir du moment où, pour moi, l'élection d'Emmanuel Macron n'est pas du tout un accident, mais que, au fond, dans le moment néolibéral, c'est la forme politique du bonapartisme. C'est-à-dire que sa personne, sa prétention à dépasser la droite et la gauche, vise à dire la France a encore un destin, on va se mettre en marche à partir de ce que l'on est. Et ce que montrent ces élections européennes, c'est que les trois forces qui arrivent en premier prétendent dépasser le clivage gauche-droite qui est structuré par la question sociale et qui faisait les partis de gouvernement de droite et de gauche. Le moment dans le monde actuel et le moment en France, c'est d'abord le retour de la question nationale, c'est la maîtrise du destin. Et là, le problème, c'est que le Parti républicain, il est contradictoire. Dans les pays anglo-saxons, on peut être conservateur au plan moral et libéral, voire ultra-libéral au plan économique. Pas en France. L'imaginaire français interdit cette contradiction qui avait des Fillon. Ce qui fait que, selon moi, Fillon n'aurait pas pu l'emporter à la présidentielle, nonobstant ses problèmes. Que disait Fillon ? Fillon disait... Pour survivre dans le monde tel qu'il est, il faut changer de modèle économique et social, mais je sécurise les Français par mon conservatisme moral. Ce n'est pas possible dans un pays comme le nôtre qui a un tel écart entre le discours moral, culturel d'un côté et le discours économique de l'autre. Ce que nous montre par exemple, les Européennes, encore plus clairement que la présidentielle, c'est que les Français recherchent les cohérences. Emmanuel Macron est cohérent. Au plan culturel, il est plutôt libéral et au plan économique, il est libéral. Il n'est pas ultra-libéral comme à ce point Fillon. Et Marine Le Pen, elle est dans une très grande cohérence entre la question nationale et ce qu'elle dit au plan social. Et elle fait muter le Front National du nationalisme au souverainisme. Et là, on avait une droite au PR qui était, elle, dans une contradiction terrible, même si Bellamy essayait de mettre un peu de liant, mais la contradiction du Parti républicain, c'est qu'au plan économique, il disait « faut changer de modèle », et au plan moral et culturel, il disait « faut conserver ». Mais c'est pas possible de regrouper de façon nette des gens avec une telle contradiction entre le portage politique, économique, pardon, et le portage idéologique.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Ludovic Bigogne ? Est-ce qu'on pourrait pas... Ludovic Bigogne, pardonnez-moi. Est-ce qu'on pourrait pas rétorquer que la droite, elle a quand même vécu longtemps avec des forces, si ce n'est contradictoires, mais enfin en tout cas plurielles en son sein, l'UMP, c'était justement ça. Et est-ce que, à la faveur justement de ces départs qui vers la République En Marche, qui c'est un petit peu moins fort, mais du côté du Rassemblement National, est-ce qu'elle n'avait pas gagné une certaine cohérence, justement, en tout cas une forme de nouvelle lisibilité en étant un peu plus axé sur la défense des valeurs, notamment.
Pas tant que ça, parce qu'on a vu par exemple le départ de Valérie Pécresse cette semaine et celle-ci motivait celui-ci par notamment des divergences économiques fortes. Elle faisait référence à ce qui s'était passé à l'Assemblée nationale lors de la privatisation d'ADP où une partie des députés LR s'était associée à la France Insoumise. Donc il reste encore aujourd'hui des fortes divergences. Après, le mouvement de rétractation, il vient aussi de beaucoup plus loin. Il ne faut pas oublier que par exemple Jean-Louis Borloo, des figures centristes qui appartenaient à l'UMP depuis la création en 2002, quitte les Républicains, enfin à l'époque c'était encore l'UMP, en 2010, et ça n'a cessé de s'accélérer. Donc le mouvement de rétractation, il est venu vraiment progressivement, et aujourd'hui on est venu à quelque chose de beaucoup plus, encore plus mince.
Et puis, qu'est-ce qui fait que ça pouvait coexister à une époque et que ça ne peut plus le faire? C'est quoi? Alors, c'est un problème de leadership, par exemple?
Évidemment, Nicolas Sarkozy avait cette qualité-là, sa fameuse jambe droite, sa fameuse jambe gauche, ce qu'il avait fait au gouvernement, rassemblant à la fois des gens de gauche d'ouverture et puis des purs sarkozistes, montrait que effectivement lui savait le faire. Et au bout d'un... Il savait le faire au début d'ailleurs. À la fin, en 2012, il a su moins le faire et il a perdu. Et depuis, personne n'a su effectivement le refaire.
Laetitia Stroche-Bonnard.
Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous disiez, M. Rosès, tout à l'heure, sur la contradiction intrinsèque entre libéralisme économique et conservatisme culturel. Déjà parce que la contradiction, elle existe aussi à gauche, ou du moins, elle existait dans l'autre sens. C'est-à-dire que historiquement, historiquement, les partis de gauche, voilà. Mais ça tenait, et ça tenait aussi à droite.
Oui,
je
mais
pense
plus
que
maintenant.
Ça a réussi à tenir, mais pendant des décennies, c'est ça qui est intéressant, de voir qu'à gauche, c'était le contraire. C'est-à-dire qu'on peut être libéral sur les mœurs, mais que sur les questions économiques, on est étatiste et on est peut-être plus conservateur pour le coup. Je ne pense pas que ce soit contradictoire parce que un conservateur britannique ou américain vous dirait mais si vous voulez avoir une économie libre, il faut vous ancrer quelque part. Si vous voulez ouvrir, il faut avoir un point d'attachement. Donc en fait l'idée qu'il y a d'un côté l'ouverture et de l'autre côté de la fermeture, c'est une vision qui est quand même assez étriquée de l'être humain.
C'est la France. Mais ça nous distingue des Anglais, des Américains. C'est une question culturelle très ancienne.
Alors, je ne pense pas qu'on puisse régler toutes les questions en disant c'est culturel, point. Simplement, je pense qu'en France, ça a tenu parce qu'on ne disait pas les mots. On ne disait pas le mot libéral, on ne disait pas le mot conservateur, mais on avait les leaders qu'il fallait. De Gaulle faisait un petit peu ça aussi, même s'il n'était pas libéral, il n'était pas non plus complètement anti-marché. L'économie était libre. Et je pense que petit à petit, on a continué cette tradition. Je pense que ce qui a changé aujourd'hui, c'est qu'en effet, de plus en plus d'électeurs veulent cette cohérence. Donc, on n'a plus seulement deux jambes, enfin deux options, c'est-à-dire libéral-conservateur gauche, libéral-conservateur-droite. On a quatre options. Ces deux-là qui sont peut-être en train de mourir, je ne sais pas. Et deux nouvelles options qui sont libéral-libéral, conservateur-conservateur. Et ça, c'est nouveau, avec des partis qui parlent à ces gens-là. Donc, est-ce que ça va être ça, la politique de demain? Est-ce que ça va être libéral ouvert versus conservateur fermé? Ou est-ce qu'on va réussir, je l'espère, à laisser entrer un petit peu la complexité du monde? L'avenir nous le dira.
Alors, justement, sur la question du choix des mots, il y a aussi un terme qui avait un certain mal, manifestement, à être assumé. C'était justement celui de droite, avec l'idée, par exemple, portée par Laurent Wauquiez, qu'il y avait une droite décomplexée, qui s'assumait totalement. Est-ce que ça ne veut pas dire, finalement, Ludovic Vigogne, que pour que la droite fonctionne bien en France, vous qui la suivez depuis de longues années, eh ben, en tout cas, elle fonctionne d'autant mieux, elle est d'autant plus puissante qu'elle ne s'affiche pas comme telle?
Le slogan de Laurent Wauquiez lors de sa campagne pour la présidence des Républicains en 2017, c'était « La droite est de retour ». Et effectivement, on lui expliquait qu'il allait renouer avec les valeurs traditionnelles de la droite que celle-ci avait reniées en ces dernières années, voire ces dernières décennies. Ce que fait Laurent Wauquiez quand il arrive, c'est qu'il fait un pari stratégique. Il estime que Marine Le Pen est disqualifiée pour la prochaine présidentielle à la suite de sa prestation de l'entre-deux-tours face à Emmanuel Macron. Donc, lui s'emploie d'abord à prendre sa place, à faire venir les électeurs du Front National à l'époque devenu Rassemblement National, et donc droitise à outrance son discours et son positionnement. C'était assez naturel chez lui, c'était déjà depuis 2014 l'évolution qu'il avait suivie. Et il le fait encore plus en mettant d'abord en avant des questions identitaires, des questions régaliennes. Voilà. Petit à petit, il se rend compte que de l'erreur qu'il a faite, puisque Marine Le Pen se remet progressivement de son débat, revient au premier plan. Le Rassemblement national redevient la première force d'opposition à Emmanuel Macron. Corrige un peu son discours. Hein. Il adapte ces 6 derniers mois un discours plus libéral. Il parle davantage des questions économiques. Il met en avant la réduction des dépenses publiques, la baisse des impôts de manière très forte. Mais visiblement, ça n'a pas suffi et ça n'a pas convaincu. Et ça s'est même surajouté à l'image de sincérité qu'il portait.
Est-ce que ça peut vouloir dire, Stéphane Rosé, est-ce que la culture française, pardon Laetitia Strauss-Bonnard, j'utilise quand même ce terme, mais veut que... l'on soit dans un pays où les électeurs sont majoritairement à droite, mais où on préfère voter pour des partis qui portent ces idées sans dire qu'ils sont de droite, sans l'afficher de manière aussi ostensible en tout cas.
Je crois que dans le moment actuel, du fait des modalités de la globalisation, du fait de ce que devient l'Europe institutionnelle, très éloignée de l'attente forte des Français à l'égard de l'Europe souhaitable, la question essentielle, et c'est ça qu'Emmanuel Macron a compris et qui n'a pas été suffisamment repéré. Emmanuel Macron a dit devant le Congrès, le premier mandat que m'ont confié les Français, c'est de restaurer la souveraineté de la nation. Donc il avait bien compris que quand il disait « En marche », c'est pas vous les Français les responsables de notre malheur, c'est le personnel politique, je sais, j'en viens, il suscitait l'espoir d'une reprise du destin du pays. Si on entend par droite le fait de remettre le commun avant la dispute, alors que la gauche c'est de la dispute que naît les Lumières, on pourrait dire c'est la droite. Mais pourquoi le terme droite effectivement pose problème? C'est que quand les Français s'interrogent sur qu'est-ce qu'être Français, qu'est-ce qui nous rassemble comme Français, on doit mettre en avant le commun et non pas tout de suite diviser politiquement. Et c'est ça qu'Emmanuel Macron a réussi, c'est ça que tente de faire Marine Le Pen après sa présidentielle cataclysmique. Elle comprend qu'elle ne doit pas apparaître anti-européenne, parce que comme disait Malraux, la France a besoin d'embrasser le monde, et donc on ne peut pas, comme Français, apparaître anti-européen. Donc elle opère un virage qu'on a vu lors des européennes, avec l'arrivée de quelqu'un comme Hervé Juvin. Elle est en train, peu à peu, de passer du nationalisme au souverainisme. Les lignes bougent, de sorte que, évidemment, François-Xavier Bellamy, qui a fait une belle campagne, qui aurait pu incarner un renouvellement générationnel, c'est aux deux bords qu'il a été privé. Et au dernier moment, au tout dernier moment, une partie de son électorat l'a lâché parce qu'il a eu peur de Marine Le Pen. Il est allé vers Emmanuel Macron et une partie de son électorat moins importante est allée vers Marine Le Pen qui peu à peu quitte les rivages de l'extrême droite pour devenir gaullienne. Et donc cette recomposition du pays, elle se fait effectivement par le bas et c'est ceux qui sont cohérents qui vont l'emporter. C'est-à-dire les problèmes du PS, de LR et même de la France insoumise qui avait fait une belle fin de campagne présidentielle avec une ligne patriotique jaurésienne. La ligne gauchiste est revenue. La ligne de se mettre d'accord en cartel est revenue. Et toutes les forces qui n'étaient pas cohérentes peu à peu disparaissent.
Laetitia Strauss-Bonnard et ensuite Ludovic Vigogne.
Alors, les forces peut-être, mais je ne dirais pas qu'Emmanuel Macron est toujours très cohérent, parce qu'il y a une forme d'imprécision quand même dans ce qu'il dégage. Justement, parfois, il dégage quelque chose de très droitier, cette idée de commun, de destin, très, très jacobine quand même, il faut le dire. Et ça, c'est pas du tout la tradition orléaniste, hein, et c'est pas du tout non plus la tradition libérale. Ça qui est intéressant, on dit que c'est un libéral, mais au fond, c'est un centralisateur qui aime concentrer le pouvoir. Donc oui, il plaît aux gens de droite pour cette raison, mais d'un autre côté, je pense qu'il déplaît à une certaine droite qui est d'accord avec lui sur l'économie, qui est d'accord avec lui en gros sur les valeurs, parce que quand même c'est pas un libertaire absolu, hein, ça va, ça reste modéré, mais on dirait qu'il porte avec lui un bagage malgré tout progressiste, malgré tout très optimiste, et ça, l'imaginaire de droite n'est pas tout à fait compatible avec ça. Après, ça ne signifie pas du tout qu'il ne réussira pas. Je pense que les gens qui sont profondément de droite, c'est-à-dire qui veulent de l'économie libre, qui sont peut-être plus conservateurs sur les valeurs, mais qui ont cette espèce de pessimisme moral, ils ne sont pas majoritaires dans le pays. Et ils ont voté François-Xavier Bellamy, certainement, ils se sont retrouvés chez lui, mais ils ne se retrouveront jamais chez Emmanuel Macron. Donc tout ça pour dire que, oui, Emmanuel Macron, il attire la droite, il a réussi un coup de maître. Il y a un mélange de stratégie et d'idéologie qui est assez génial, il faut le reconnaître. Mais en même temps, c'est pas pour les gens qui sont vraiment de droite, ce sera peut-être jamais la droite.
Ludovic Vigogne.
Non, ce qui est effectivement impressionnant dans ce qu'a réussi à faire Emmanuel Macron, c'est à changer de socle électoral pendant son mandat. C'est-à-dire, si on simplifie, il est élu globalement par le centre-gauche et aujourd'hui, c'est un président qui est d'abord supporté par le centre-droit et dans des proportions assez importantes. Moi, je crois qu'aussi, il y a un point essentiel qu'on oublie un peu, c'est la crise des gilets jaunes. En fait, dans cette crise des gilets jaunes, il y avait un premier signal de l'effondrement qu'allaient connaître les Républicains. Il faut se souvenir que quand cette crise apparaît, en novembre, les Républicains ne savent pas tellement comment se situer. Dans un premier temps, appuient les gilets jaunes. Dans un deuxième temps, les condamnent. Et qu'il y a eu un profond désarroi de l'électorat de droite qui s'est scindé en deux. C'est, contrairement aux marcheurs, à l'électorat des marcheurs qui condamnaient les gilets jaunes, contrairement à l'électorat du Rassemblement national qui les soutenait, l'électorat des républicains est le seul à s'être divisé. Et s'est divisé très profondément. Et je crois que ce qui s'est passé par la suite, c'est que l'image d'ordre qu'a voulu donner Emmanuel Macron est quelque chose aussi qui a un peu plus siphonné l'électorat de droite par rapport aux républicains. Et ça a été quelque chose qu'on a retrouvé, en fait, lors de ces européennes. Si j'osais, je dirais presque les gilets jaunes ont permis à Emmanuel Macron de gagner les européennes. Voilà, c'est parce qu'il y a eu cette crise-là et qu'Emmanuel Macron pourrait répondre à endosser les habits de l'ordre et qu'il plaît tant à l'électorat de droite qu'il a réussi cette performance aux européennes de ne pas les perdre finalement.
Qui a la capacité pour vous aujourd'hui, Ludovic Vigogne, justement, de rassembler peut-être à nouveau cette famille des Républicains? Est-ce que c'est encore et toujours Nicolas Sarkozy qui serait cet éternel recours finalement auquel on fait appel quand il y a une crise à droite? Et pour demain, est-ce que ça pourrait être par exemple Gérald Darmanin? Si je le cite, c'est parce que c'est un des personnages principaux, si ce n'est le personnage principal de votre dernier livre. Et d'ailleurs sur la couverture, on voit Nicolas Sarkozy et celui qui pourrait être, pourquoi pas, son successeur.
Qui est un peu son héritier, l'idée de raconter une histoire humaine assez étonnante entre l'ancien président et ce jeune ministre, Nicolas Sarkozy, qui s'est pris d'amitié très forte pour lui, et puis ce jeune ministre très ambitieux, qui a quitté les Républicains et est devenu un poids lourd du système Macron, et qui est passionné de politique et qui grandit en appliquant les leçons de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, il reste dans l'inconscient de droite, dans l'inconscient des Républicains. La référence, c'est le dernier à avoir fait gagner la droite, à avoir fait gagner les Républicains. Et donc, dès que ça va mal, on se retourne naturellement vers lui. On va le voir, on lui demande conseil. Mais
Il conseille également Emmanuel Macron, d'ailleurs.
Oui, ça c'est sûr. Après, il ne faut pas non plus se tromper. Nicolas Sarkozy ne tire pas les ficelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne maîtrise plus les choses. Il est comme les autres. On l'avait déjà vu, notamment pendant la présidentielle de 2017, quand on cherchait un plan B à François Fillon. Nicolas Sarkozy n'a pas plus que les autres trouver une solution. On n'a pas su débrancher François Fillon. Il était comme une poule devant un couteau, lui aussi. Et là, à nouveau, dans cette crise que l'on voit, il ne tire pas les ficelles, il l'a subi, il essaye de pousser quelques options, mais il ne maîtrise pas tout à fait les choses. Et ensuite vient la question de son envie profonde. Veut-il revenir vraiment? Ne veut-il pas revenir? C'est compliqué d'y répondre. Ce qui est sûr, c'est que celui qui a une partie de la réponse, c'est Emmanuel Macron. Si Emmanuel Macron réussit, Nicolas Sarkozy n'aura aucun espace. Si Emmanuel Macron échoue, peut-être qu'il a un espace. Mais c'est d'abord du succès ou de l'échec du quinquennat Macron que dépend son destin.
Qui incarne la droite pour vous aujourd'hui en France, Laetitia Strauss-Bonnard et Stéphane Rosès? Qui veut répondre en premier?
Xavier Bertrand.
Pourquoi?
Parce que, au fond,
ça vous laisse le temps de réfléchir, Laetitia Strauss-Bonnard.
Je pense que l'intuition de Gérard Larcher, qui est de dire la question du territoire, de l'enracinement, C'est une bonne intuition pour le peuple de droite. Et deuxièmement...
Ce que fait rappeler un qui dirige la région... comment s'appelle-t-elle?
Voilà, Haute-France. Et deuxièmement, parce qu'au fond, il est assez dans une capacité, on le verra au régional, mais de résister à, selon moi, ce qui est une poussée et un changement... Par rapport à la présidentielle, beaucoup avaient dit que Marine Le Pen était finie après son débat d'entre-deux-tours cataclysmique. Elle opère une mutation, comme il y a eu une mutation en Italie. Et selon moi, la force qui monte, c'est le Rassemblement national. Et la seule personnalité qui soit à même, parce qu'elle est, d'offrir une alternative, elle ne peut être qu'au fond dans un ancrage gaullien. Hein, c'est-à-dire la question de la souveraineté, parce que tous les peuples dans le monde, face à la globalisation néolibérale, sont à la recherche de qu'est-ce qui me garantit comme leader, comme projet, que nous sommes maîtres de notre destin. Et donc pour moi, celui qui représente aujourd'hui le recours pour le peuple de droite, c'est Xavier Bertrand, parce qu'il est au fond dans ce positionnement gaullien et à la fois réaliste au plan économique.
Laetitia Strauss-Bonnard, vous avez eu deux bonnes minutes.
Non, je vais vous surprendre, mais je suis assez d'accord. C'est-à-dire que je trouve que chez Xavier Bertrand...
Moi, vous ne me surprenez pas du tout. Hein.
Je trouve que chez Xavier Bertrand...
Vous n'êtes jamais surpris quand on est d'accord avec vous, c'est ce que vous
absolument.
Dites,
Stéphane Renaud.
Non, mais il y a la dimension. On parlait des territoires, mais ce qui est quand même, en effet, qui fait partie de l'identité de la droite, il y a ça aussi. Et ce n'est pas seulement l'ancrage, mais c'est la liberté aussi du territoire. Peut-être un peu plus de décentralisation un jour, si on rêve un peu. Ça pourrait être un programme de droite. Et je pense que, oui, Xavier Bertrand peut le faire. Je pense qu'aussi... sur les questions économiques, alors c'est pas le plus libéral de tous, mais bon, je pense que si c'est quelqu'un qui peut se laisser convaincre que c'est bien d'avoir une politique pro-marché et pas seulement vis-à-vis du monde. Moi, je pense que ce qui manque à la droite aujourd'hui, c'est une façon de parler de l'entreprise pour tout le monde, de la création d'entreprise pour tout le monde, et pas seulement les grandes entreprises. Mais qu'est-ce que c'est qu'un capitalisme populaire, par exemple? Qu'est-ce que ça veut dire de devenir entrepreneur? Comment on aide les gens à le faire? La droite a complètement abandonné ça aujourd'hui. Ça n'est plus du tout dans son discours et c'est très dommage parce que je pense que les gens aspirent aussi à cette forme de liberté-là et qu'ils aimeraient peut-être un peu plus l'entreprise si elle leur paraissait humaine, c'est-à-dire si elle leur ressemblait un peu. Donc oui, Xavier Bertrand, je suis d'accord. Après, ce qu'on a vu ces dernières années, c'est que les gens qui montent viennent de nulle part. Et quand on regarde la génération de Xavier Bertrand, oui, il y a des gens comme ça de grande qualité, où il y a du fond. Quand on regarde les plus jeunes... à droite, on peine à trouver des gens qui ont beaucoup de potentiel. Et j'ai l'impression qu'il y a une crise de talent quand même dans la politique. C'est-à-dire qu'elle n'attire plus forcément des gens très créatifs et qui ont aussi beaucoup de fond. Donc voilà, espérons qu'en tout cas, ils se tournent vers la génération de Xavier Bertrand et pas forcément la nouvelle.
Moi, je rajouterais aussi un nom qui est celui de François Baroin, parce que lui aussi quand même incarne quelque chose. Il est très populaire à droite. Il est aussi le représentant des territoires. C'est le président de l'Association des maires de France, qu'il incarne aussi une certaine idée républicaine, comme Xavier Bertrand. Et qu'il a aussi un réseau très puissant, très profond hein, chez les élus de droite. Ça fait maintenant quasiment 30 ans qu'il est là et qu'il a... Il a vraiment à ses côtés beaucoup d'élus qui le poussent. Et d'ailleurs, au lendemain de la démission de Laurent Wauquiez, c'est d'abord vers lui que l'on s'est tourné. C'est d'abord vers François Baroin qu'on s'est tourné pour savoir si lui était prêt à reprendre le gant. Et visiblement, il n'est pas prêt parce qu'il ne veut pas être candidat à une élection en octobre, mais préférant se consacrer aux élections municipales à Troyes en mars. Mais je pense qu'il jouera aussi, il peut jouer aussi sa carte, il peut aussi être un recours.
François Baroin, il vient du chiracisme,
bien sûr.
Si je ne me trompe pas. Ouais. C'est un autre chiracien qui pourrait prendre la tête des Républicains. Si je vous ai bien lu, Christian Jacob, c'est celui qui est le mieux placé aujourd'hui succéder à Laurent Wauquiez.
En tout cas, c'est l'hypothèse qui est en train de monter, c'est-à-dire que François Baroin, je le disais, qui ne veut pas aller à la présidence des Républicains, mais aussi Laurent Wauquiez, qui veut aussi continuer à tirer un peu les ficelles, mais aussi les sarkozystes, qui veulent avoir un homme à eux, voient en Christian Jacob, le président du groupe LR à l'Assemblée nationale, une bonne solution. C'est quelqu'un qui pourrait faire consensus, qui garderait la maison, qui ne désavantagerait ni les uns ni les autres, qui serait un peu quelqu'un qui ferait la transition. Voilà.
En parlant de transition, alors il y a un personnage dont on n'a pas parlé. Quand on parle des Le Pen aujourd'hui, il faut préciser de qui on parle. Il y a Marine, bien sûr, mais aussi Marion Maréchal. Alors même si elle se fait appeler uniquement Marion Maréchal, mais c'est Marion Maréchal Le Pen qui s'était mise en retrait de la vie politique, qui manifestement revient. Elle était dimanche sur LCI. Elle propose d'œuvrer à une grande coalition entre le Rassemblement National et la droite de Les Républicains, si tant est qu'il y a encore une gauche chez Les Républicains. Stéphane Rosès, bah, finalement, ça entre peut-être aussi dans cette logique de recomposition que vous évoquiez tout à l'heure.
Oui, je crois que c'est une initiative assez personnelle et baroque. C'est-à-dire qu'elle misait, comme beaucoup, sur l'effondrement du Rassemblement national et de sa tente, de sorte d'arriver en sauveur. Ce n'est pas, elle a compris que ce n'est pas ça qui se passait. Et donc elle se dit, si je ne sors pas du bois, je vais être enterré. Et alors que beaucoup se tournaient vers moi, je ne vais plus être là. Et donc du coup, elle propose une tactique qui est une tactique qui est bizarre dans la mesure où le Parti républicain est en difficulté et du point de vue qui est le sien, comme celui de sa tante, l'idée devrait être plutôt d'utiliser les débris du Parti républicain pour faire en sorte de faire grandir le Rassemblement national. Donc je vois ça comme une sorte d'initiative un peu précipitée pour exister, mais qui aurait eu du sens si le Rassemblement national n'avait pas fait un bon score, mais on ne voit pas, je dirais, en termes d'analyse purement froide, pourquoi donc proposer une alliance avec une formation politique qui se fait attaquer par les deux bouts, par Emmanuel Macron, et puis on va le voir avec la pression locale dans certaines régions, par le Rassemblement national.
Les européennes ont été à double titre une mauvaise nouvelle pour Marion Maréchal. Non seulement, comme le disait Stéphane Rosès, ça a confirmé la remise en selle de sa tante Marine Le Pen, mais aussi parce que le score de François-Xavier Bellamy est une mauvaise nouvelle pour le courant de pensée que défend Marion Maréchal. Marion Maréchal, c'est la droite catholique ultra-conservatrice. Or, qu'est-ce qu'on a vu lors de ces élections-là? C'est que ce courant-là, évidemment, il y a d'autres facteurs qui ont joué, mais en tout cas, cette ligne-là, c'était 8,48%. Donc je pense qu'il était à double titre urgent pour elle de remonter en selle pour ne pas laisser s'installer l'idée que ce créneau politique-là était une réelle impasse.
Vous vous souvenez du titre de l'émission de ce soir, Laetitia Strauss-Bonnet, enfin, en tout cas de la question qu'on pose, « Mais où est passée la droite ?» Je vais vous laisser le soin de conclure pour cette fois-ci. Comment est-ce que, du coup, vous répondriez à cette question? Où est passée la droite?
Alors, je vais répondre ce que j'ai répondu tout à l'heure. Je pense qu'elle est plutôt au pouvoir. Elle est même au pouvoir. Mais si je pouvais juste faire un petit commentaire sur Marion Maréchal. Elle a une analyse sociologique un peu bizarre, je trouve, parce qu'elle a dit, il me semble, qu'elle voulait faire une alliance, en gros, hein, entre les Gilets jaunes et la Manif pour tous. Alors, pourquoi pas? Mais elle a dit ça. C'est historiquement, la droite, on peut dire, c'est ça. On est allé prendre un versant plus populaire, un versant plus bourgeois, et elle dit qu'elle veut faire cette alliance. Mais réduire ça à Gilets jaunes plus Manif pour tous, là, je pense qu'il y a vraiment... Elle se perd, d'une certaine façon. Donc, comme vous disiez, c'est un peu baroque, un peu inattendu.
C'est une synthèse qui ne peut pas fonctionner pour vous, Ludovic Vigogne, justement, les Gilets jaunes et la Manif pour tous?
Non, on l'a vu, d'ailleurs, je le disais tout à l'heure, quand la crise des Gilets jaunes a émergé, ça, c'est ce qui a fait exploser pour la première fois les Républicains. Donc, je ne pense pas, non, que ça puisse fonctionner.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Laetitia Strauss-Bonnard, Stéphane Rosès et Ludovic Vigogne. Je rappelle votre dernier ouvrage, Tout restera en famille. Ludovic Vigogne, ça a été publié il y a quelques semaines de cela chez Fayard. Merci à l'équipe du Grain, Antoine Dulster, Fanny Richer, Virginie Leduo, Antoine Tricot, Cyril Marchand. Émission réalisée par Peyre Legras, avec à la prise de son Bel Air à Radio France, Marie Le Peintre, Nicolas Depas-Graff et Lucas Desrodes. Émission que vous pouvez bien sûr réécouter sur notre site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Vous pouvez également télécharger l'émission dans les minutes qui suivent son terme. Et n'hésitez pas également à nous écrire si vous avez des commentaires à faire sur ce qui a été dit ou l'analyse, pourquoi pas, justement, sur l'état de la droite aujourd'hui.